Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. La Russie est une plaine immense où galope l'homme mauvais, écrivait Anton Tchekhov, auteur dont les pièces irriguent les scènes aujourd'hui, comme hier, demain et encore après-demain, à n'en pas douter. La Cerisée, les trois sœurs, la Mouette, Oncle Vania, Ivanov, Platonov, on ne compte plus les représentations de ces textes sur les plateaux français. Tchekhov n'a jamais été un auteur à la mode, car Tchekhov fait la mode. Mais sait-on vraiment qui était cet homme, né en Russie en 1860 et mort à l'âge de 44 ans seulement? Pas si sûr. Nous ouvrons aujourd'hui un chapitre de plus d'une saison au théâtre, encyclopédie en mouvement d'un art qui, plus que les réponses, aime les questions posées. Celle qui nous occupe aujourd'hui est la suivante. Qui est Anton Tchekhov? Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue. Bonjour Annie Arnagiros.
Bonjour.
Vous avez exercé pendant de nombreuses années la profession de psychanalyste et vous êtes sans cesser d'être psychanalyste intéressée à deux auteurs russes. Le premier était Tolstoï et le second Tchekhov. C'est Tchekhov qui retient aujourd'hui notre attention et d'autant plus que nous avons lu votre livre et découvert votre livre « Une psychanalyste lit Tchekhov », c'est son titre, livre qui est paru aux éditions L'Harmattan voici quelques années. J'aimerais, avant d'entrer dans ce qui constitue ce livre, c'est-à-dire l'enquête que vous avez menée conjointement sur ces deux territoires que sont à la fois la vie de Tchekhov et l'œuvre de Tchekhov, savoir pourquoi et comment une psychanalyste a décidé de consacrer une partie de son temps à cet auteur.
Je commencerai peut-être très rapidement par dire comment ça a commencé, parce que ça a commencé il y a une vingtaine d'années par la découverte de Tolstoï. Je pratiquais la psychanalyse et je ne lisais que de la psychanalyse à cette époque-là, mais j'ai découvert tout à coup Tolstoï dans Résurrection, qui n'est pas son meilleur roman, mais j'ai été absolument bouleversée. Et à la suite de cette lecture, j'ai tout lu. Les romans, les récits. Et j'ai remarqué qu'il se développait dans son écriture, dans tout ce qu'il a écrit, une misogynie qui est devenue à la fin de sa vie délirante. Et je me suis dit, un auteur aussi génial, comment peut-il être délirant dans ce domaine-là? Et c'est de là qu'est venue ma curiosité, savoir qui il était pour comprendre ça. Et quant à Tchekhov, il n'y avait pas une question aussi précise, mais simplement que j'aime Tchekhov et que j'ai voulu savoir qui il était.
Dans la préface au livre qu'a rédigé le psychanalyste Gilbert Diatkine, on peut lire ceci. Dans le cas d'un analyste, l'œuvre d'art lui permet de poursuivre son auto-analyse. Est-ce que ça veut dire en clair que partant sur les traces des mystères tchekhoviens, vous êtes parti sur vos propres traces?
Oui, parce que je crois que dans un écrit, l'inconscient de l'auteur résonne et il résonne dans l'inconscient du lecteur. Ça, c'est, je crois que c'est pour tout le monde comme ça. Et c'est dans ce sens, je crois, que ça a été dit.
Est-ce que la lecture de Tchekhov et sa compréhension progressive, à mesure que vous l'avez interrogé, ça nourrit votre pratique de psychanalyste?
Non, pas spécialement.
C'est vrai?
Non. C'est resté un peu à part. C'est un intérêt parallèle, mais un très grand intérêt.
Et est-ce que vous avez repéré, là je m'adresse encore à la psychanalyste Annie Arnagiros, est-ce que vous avez repéré dans ses écrits quelque chose qui est de l'ordre de la structure du rêve, de l'association libre, de la condensation, du déplacement, enfin tout ce qui fait le rêve au sens où Freud l'a si bien décodé?
Oui, bien sûr, parce que bien sûr que Tchekhov ne parle pas directement de lui, sauf dans ses correspondances, en particulier avec ses frères, où il fait allusion très très précisément aux souffrances qu'il a endurées avec ses frères à cause de l'éducation extrêmement violente qu'il a reçue de la part de son père.
On va y revenir,
mais ça, justement, ça va entrer en résonance avec des écrits, des récits, comme Varenka, comme, enfin, j'en ai parlé dans le livre, il y a un chapitre là-dessus, où ces souffrances d'enfance sont réellement représentées, symboliquement bien sûr, par association, comme vous dites, et symboliquement, mais c'est qu'on sent très bien que c'est ça dont il s'agit.
Mais vous qui le connaissez maintenant par cœur, vous avez l'impression qu'il y a des choses dans l'écriture qui ont échappé à son conscience, c'est-à-dire à sa volonté d'écrivain ?
Il y a une chose que j'ai vue, c'est qu'il a reçu de son père une éducation d'extrême violence, et dans sa vie, c'était un homme, au contraire, très bienveillant, très doux, charmant, et je pense qu'il a contre-investi cette violence dont il a hérité de son père et l'a retournée en son contraire. Mais je peux dire que cette violence aussi, il l'a retournée contre lui et je pense que c'est la cause de sa dépression.
Je vous propose, Anne Argyros, d'écouter une première archive dans une saison au théâtre. C'est Henri Troya, l'écrivain, lui aussi biographe de Tchekhov. Il revient sur certaines des réalités de vie dont vous aussi vous faites l'écho dans votre propre livre, Henri Troya.
Il n'est pas calculateur, mais il est généreux et cependant il garde une certaine distance. Il aime s'entourer d'amis et personne, aucun de ses amis ne peut se vanter de l'avoir percé à jour. Il est médecin, il se dévoue sans compter auprès de ses malades, mais en même temps, il a une haute conscience de son devoir d'écrivain. Il écrit jusqu'à la limite de ses forces pour construire une œuvre à laquelle, après tout, il ne croit pas tellement, puisqu'il dit qu'on ne lira pas 7 ans après sa mort, qu'il disparaîtra 7 ans après sa mort. Il aime s'entourer de jolies femmes et en même temps, il hésite à se lier avec l'une d'elles. Là, il y a quelque chose de très étrange. C'est un continuel mouvement d'élan vers quelqu'un et de retrait ensuite. C'est un personnage qui est assez mal dans sa peau, c'est un personnage qui manque de passion, c'est un personnage qui regarde passer la vie accoudé à une barrière, au fond. Il est plus spectateur qu'acteur. Il a une jeunesse terrible, il a un père qui est un despote, une brute et un bigot effroyable. Il connaît la misère dans son jeune temps, mais je me demande si ce n'est pas par réaction contre la violence, la bigoterie, la sottise de son père et qu'il s'est forgé ce caractère fait de modestie, de scepticisme et d'horreur de tout éclat. L'œuvre de Tchekhov est très grande, l'œuvre de Tchekhov est très importante, car en France, on le connaît surtout par ses pièces, mais en Russie, des générations de lecteurs ont été bouleversés par ses récits et par ses nouvelles. Il y en a à peu près 240, enfin, c'est donc une œuvre assez importante. Et ses récits, ses nouvelles sont inspirés par des personnages tellement divers, par des milieux tellement divers, qu'on a l'impression, en les lisant, de faire un voyage vertigineux à travers la Russie, à travers toutes les couches sociales de la Russie. C'est une œuvre étonnante par son ampleur.
Bon, ce n'est évidemment pas nous qui allons dire le contraire de ce que disait Henri Troya en 1984 sur France Inter. Ce qui est très frappant, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est la dimension du paradoxe. Alors évidemment, tout être humain est paradoxe. Mais tout de même, là, c'est ce pas de deux de Tchekhov entre une chose et son contraire est assez frappant. Et vous aussi, vous y venez à cette question-là, Annie Argyros.
Je pensais à propos de son activité de médecin, qu'au moment où il y a eu le choléra, il disait qu'il passait ses nuits sur les routes à soigner les gens, mais qu'il revenait épuisé et dans l'indifférence la plus totale. Voilà, déjà un paradoxe. Un autre paradoxe, c'est que il était très séduisant et très séducteur, mais je pourrais dire que il avait une attitude hystérique vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire séduire, abandonner. Voilà un paradoxe. Et je crois que jusqu'à ce qu'il rencontre Olga, sa femme, 3 ans avant de mourir, c'était
Olga
ça.
Olga Knipper.
Voilà.
Mais est-ce que la violence de son père, à laquelle vous faisiez allusion et dont vient de parler Henri Troya, explique beaucoup, beaucoup de choses de son œuvre. Est-ce que c'est le noyau dur dans lequel il faut aller chercher pour comprendre ?
Oui, je crois, mais moi je pense que la psychanalyse n'explique pas tout. Et on peut trouver des indices. Voilà, et il y a beaucoup d'indices, effectivement. Et cette enfance maltraitée, il a dit « dans mon enfance, je n'ai pas eu d'enfance ». Et effectivement, je crois que c'est le thème qui alimente son œuvre, c'est vrai. Mais pas seulement.
Et la mère ? La mère, écrivez-vous, est toujours celle qui manque.
Oui, et la mère, on ne la connaît pas bien. on n'a pas beaucoup de moyens de la connaître, mais on voit sur les photos une femme triste et déprimée, épuisée, probablement épuisée par les maternités et par la pauvreté extrême au moment où Tchekhov était enfant et adolescent. Il vivait dans une misère noire. Et je pense que la mère a beaucoup souffert. On ne connaît pas grand-chose d'autre de la mère. Du père, oui, mais la mère, pas beaucoup. On est obligé d'imaginer. On imagine une femme déprimée.
Voilà. Il y a quelques figures de mère dans les pièces. Il y a notamment la mère dans La Mouette, la mère de Trigorine, qui est une mère vampire, une mère monstrueuse, qui ne laisse pas son fils vivre, être et aimer. Ce serait ça la vision de la mère, telle que la restitue Tchekhov dans son théâtre, en tout cas. Je ne parle que du théâtre.
C'est compliqué d'en parler, parce que l'image maternelle, souvent, c'est une image phallique, c'est-à-dire une femme puissante et souvent malfaisante, mais c'est un fantasme. Ça n'a pas de rapport avec la vraie mère, en tout cas en ce qui concerne Tchekhov, je crois.
Et l'enfant, la place de l'enfant dans les textes de Tchekhov? Parce que l'enfant, c'est quand même lié à la mère, c'est lié à l'accouchement, c'est lié à la possibilité de donner la vie et sans doute de rêver un avenir. Quelle est la place de l'enfant dans la voix de Tchekhov?
Si je réfléchis à ça, pas beaucoup. Il y a un seul enfant qu'on suit vraiment dans une très belle longue nouvelle qui est La Steppe. C'est Yerogushka. Petit garçon de 8 ans qui traverse la steppe avec son oncle et un pop et qui va se rendre très loin pour aller dans une grande école. Mais ça ne dit pas grand-chose non plus, je trouve, sur son rapport à l'enfance.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Il y a, Annie Anargyros, et vous le savez comme moi, dans toutes les pièces de Tchekhov, et surtout dans La Cerisée, une présence constante, une présence active, majeure, c'est celle de la maison. À Moscou, on peut d'ailleurs visiter la maison de Tchekhov. C'est une maison sur 2 étages, faite d'assez belles pièces. Et au rez-de-chaussée, on trouve sa chambre très austère, avec un lit, une place. Et juste à côté, il y a son bureau. J'aimerais vous faire entendre ce que dit de la maison et de sa place symbolique dans les pièces de Tchekhov un spécialiste de théâtre, c'est Jean-Pierre Sarrazac.
La maison ne communique plus ni avec le moi, n'est plus le berceau du moi, comme dirait Bachelard par exemple. Elle serait plutôt son tombeau, ou du moins elle dégage du froid toujours dans la maison, il fait froid, ou de l'étouffement. Hein. Les personnages sont ou enrhumés ou asthmatiques toujours hein, chez Tchekhov. Et la maison en quelque sorte s'est refroidie, comme si le foyer s'était éteint. C'est-à-dire ce qui anime, ce qui fait la chaleur de la maison n'existe plus. Alors, je crois que nous continuons d'habiter des maisons. Nous n'avons, bien sûr, ce n'est pas les mêmes maisons que du temps de Tchekhov, encore que, hein, pour certains. Mais nous continuons de chercher notre rapport au monde. Et nous continuons de redouter l'ennui. Enfin, le minotaure de la vie, c'est l'ennui. Et le minotaure de la vie, il se tapit au cœur de ce labyrinthe qu'est la maison. Dans Oncle Vania, les 27 pièces, et tout le monde dit on va se perdre là-dedans, qu'on est malheureux. C'est-à-dire que, au fond, le théâtre de Tchekhov nous dit comment nous sommes exilés chez nous-mêmes, en quelque sorte. Comment nous avons une difficulté à trouver les portes du monde, par le travail, par l'œuvre accomplie, sortir de cette vie de séparation, d'ennui, de torpeur. Cette histoire de la maison, elle a eu un commencement. Je dirais que ce n'est pas l'histoire simplement de la maison, c'est l'histoire de l'intime, je dirais. Dans un premier temps, le lieu intime a été un lieu favorable. Il y a une espèce d'ouverture optimiste au monde du salon d'hydrotien. Bon. Et puis, au fil du temps, cet espace qui était un espace très dynamique en quelque sorte, va devenir un espace de plus en plus replié sur lui-même, un espace avec des placards et des choses pas belles dans les placards.
Est-ce que la psychanalyste que vous étiez, Annie Anargyros, est allée chercher les cadavres dans le placard, justement, en ouvrant les portes des maisons de Tchekhov?
Je n'ai pas vu les choses exactement de cette façon.
Alors, comment les avez-vous vues?
Je pense qu'au départ, ce qui m'a frappé, c'est que la maison était pour Tchekhov un lieu particulièrement recherché, aimé en tant que lieu pour vivre avec, en fusion avec sa famille. C'est quand même étrange de penser que cet homme, jusqu'à un âge très avancé, enfin 2 ans avant sa mort, a toujours vécu avec sa famille, ses parents, ses frères, et ensuite l'hospitalité à la Russe, bien sûr, il y avait les neveux, les nièces, les bonnes d'enfants, les invités, les estivants, beaucoup de monde. Et il y avait des grands repas bien arrosés, il aimait beaucoup ça. Je crois qu'il a beaucoup aimé cette vie dans une espèce d'antre maternel qui est la maison, qui contenait le contenant de ce qu'il aimait. Et il aimait beaucoup planter des arbres et des fleurs. Il était très attaché à la maison et à son environnement. Mais il y a aussi le paradoxe dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'au bout d'un moment, il en avait assez. Il étouffait et ce lieu tellement bénéfique devenait un piège. Il avait envie de fuir. D'ailleurs, à un moment donné, je ne sais plus quand, il a fait construire un chalet dans le jardin pour pouvoir écrire La Mouette. Et il dit d'ailleurs à un moment donné, « Quand je suis avec tous ces gens dans la maison, je me sens comme une écrevisse prise dans un filet avec d'autres écrevisses. » Donc ça montre vraiment, je dirais, la violence du décalage. Voilà.
Lorsque la pièce La Cerisée est mise en scène, on sait très bien, quand on est spectateur des textes de Tchekhov au théâtre, mise en scène au théâtre, que la maison La Cerisée, donc cette maison qui va être vendue parce qu'elle n'a pas été entretenue et parce qu'il n'y a plus d'argent pour l'entretenir, est quasiment un personnage à part entière et elle occupe considérablement d'ailleurs le travail du metteur en scène lorsqu'il s'attelle à la mise en scène de cette pièce. Et Jean-Pierre Sarrazek faisait allusion aux 27 pièces qu'on peut trouver dans la maison de Oncle Vania. Est-ce que finalement, Tchekhov, achetant toutes ces maisons, puisqu'il en a acheté plusieurs, lui qui était né pauvre, qui avait vécu dans la misère avec ses parents, s'est embourgeoisé?
Je ne crois pas. Justement, parce qu'il aimait ses maisons, mais il était tout le temps en fuite. Tout le temps en fuite, en même temps qu'il aimait ses maisons. Je ne crois pas. Je ne le vois pas comme ça, en tout cas. Mais vous parliez tout à l'heure des cadavres dans les placards. Moi, j'en vois un quand même. C'est dans la fin de La Cerisée, le valet Pierce qui est enfermé dans la maison. Et on a pu voir là une représentation du père, que le père a toujours vécu dans les maisons de Tchekhov.
Mais vous parlez de la violence du père de Tchekhov. Est-ce que Tchekhov, selon vous, Annie Anargyros, aimait son père?
Je dirais qu'il lui était attaché.
Ça, c'est une réponse de psychanalyste. Vous voulez dire qu'il lui était aliéné?
Pas du tout. Comme tout être humain, il y a eu au départ un mouvement d'identification, mais il n'a pas voulu, pas pu endosser la violence de son père et il l'a inversé en son contraire pour être quelqu'un d'extrêmement bienveillant.
Est-ce que la mère, on en a parlé rapidement tout à l'heure, est celle qui va créer chez lui cette chose fondamentale qui est la nostalgie?
Ça, c'est plutôt une construction psychanalytique, je dirais.
C'est-à-dire?
Parce qu'on peut penser qu'on garde toujours la nostalgie de la relation primaire à la mère, de protection et de fusion totale. Et ça, ça a une fin, on devient grand, on se subjective et on se sépare. Mais tout en se séparant, on peut toujours garder la nostalgie de ce qu'on a perdu. Et je disais d'ailleurs à un moment donné que c'est une manière de conserver l'objet perdu, puisqu'on y pense tout le temps.
Vous dites aussi qu'il y a une érotique de la nostalgie.
Oui.
Chez Tchekhov. Qu'est-ce que vous voulez dire par
dans,
là
dans le sens de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est à la fois une douleur et un plaisir d'imaginer qu'on peut encore retrouver l'objet.
Il y a un autre aspect de Tchekhov dont nous n'avons pas parlé, que vous abordez dans votre livre. Une psychanalyste lit Tchekhov, Annie Anargyros, c'est le côté politique, ou plutôt finalement l'impossibilité d'assigner Tchekhov à une quelconque place politique. Je voudrais qu'on passe maintenant par les lumières d'un très grand spécialiste de cette œuvre, c'est son traducteur en France, André Markovitch.
Il y a une particularité unique de Tchekhov. On ne peut pas dire que le monde russe soit absent chez Tolstoï ou chez Dostoïevski, mais chez Tolstoï et chez Dostoïevski, il est orienté par une idéologie. Et toute description est une illustration et une affirmation et un triomphe de cette idéologie. Chez Tchekhov, je pense que je peux mettre au défi quiconque de dire quelle est l'idéologie de Tchekhov. C'est-à-dire que la grande particularité de Tchekhov, et la particularité absolument unique dans la littérature russe, c'est que tout événement de la vie est pris en lui-même. Il signifie lui-même. Ce qui ne signifie pas, en même temps, qui est une absence de l'histoire. Au contraire, mais c'est l'histoire concrète des gens. C'est pour ça qu'il faut absolument connaître l'histoire russe pour véritablement comprendre des nouvelles de Tchekhov. Mais il n'y a pas d'idée préconçue. C'est le premier écrivain russe, et je dois dire le seul, y compris au XXe siècle, il n'y en a pas, qui n'ait pas d'idée.
Qu'est-ce que vous en pensez, Annie Anargyros, de ce que dit André Markovitch ?
Je suis tout à fait d'accord. Et je me souviens d'un quelque chose qu'il a dit à un moment donné. On lui demandait, mais comment il se passe des choses en Russie en ce moment ? Vous n'avez pas d'idée là-dessus ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et avec son humour sarcastique, il répond, mais je ne peux pas parler de mes opinions parce que j'en change tous les jours.
Tchekhov meurt en 1900. Il meurt avant la révolution bolchévique. Certains voudraient voir dans ses pièces, et notamment la Cerisée, entre autres, le signe envoyé par un écrivain qui dirait « Voilà, je suis en train d'en finir avec un monde et je fais naître ou je fais apparaître un monde nouveau ». D'ailleurs, les marxistes ont essayé de le récupérer. Vous trouvez que ces tentatives de récupération par les marxistes sont outrancières ?
Oui, parce que ce n'est qu'une petite partie de ce que Tchekhov dit à ce sujet-là. Bien sûr, on sent qu'il pense qu'il va y avoir un monde nouveau, un monde beaucoup plus beau. Mais c'est une sorte d'utopie très lointaine, très fantasmatique, voilà. Pas liée à la réalité de ce qui se passe à ce moment en Russie, je pense pas.
Mais c'est aussi une utopie qui est presque douloureuse. Quand dans Oncle Vania, le médecin parle de l'État, de la nature, où on sent chez Tchekhov une vision sur l'écologie. Il a un vrai regard là-dessus. C'est en même temps complètement amer et désabusé. C'est quelque chose qui, je trouve, apparaît à la lecture de votre livre, Annie Anargyros, c'est-à-dire ce côté tellement lucide qu'il en devient compliqué chez Tchekhov.
Peut-être destructeur même. Destructeur de toute utopie et de toute idéologie. Oui, c'est vrai.
Donc plus que marxiste, il serait quoi, nihiliste, au fond ? Il y aurait chez lui quelque chose de cet ordre-là ?
J'ai de la peine à mettre une étiquette. À un moment donné, quand on lui reproche de ne raconter que des histoires tristes avec des gens qui s'ennuient et qui se sentent impuissants à vivre leur vie, il dit « Mais moi, je décris juste les choses comme elles sont ». Alors on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est ce qu'il dit.
Mais est-ce qu'un homme qui est travaillé comme il a l'air de l'être par l'angoisse de mort, né ou hérité de son père qui le frappait, et puis aussi angoisse de mort réelle puisqu'il est malade, il a la tuberculose très jeune et il se sait en survie, dit vraiment les choses telles qu'elles sont, Annie Anargyros? Vous croyez à cette histoire-là? Vous croyez à cette...
Non.
À cette... C'est une fable.
Je n'y crois pas, mais je crois qu'il a pu le penser. C'est vrai. Il y a aussi la mort de son frère Nicolas, qui est mort aussi de tuberculose pulmonaire, et je pense qu'à partir de ce moment-là, je ne me souviens pas de la date, mais en tout cas, à partir du moment de la mort de son frère, il a vraiment peur de mourir.
Qu'est-ce qui l'a précipité à Sakhaline pour y rencontrer les bagnards au fin fond de la Sibérie ? Il était médecin. Hein ?
Oui, je pense que c'est justement cette impulsion, à cet apitoiement sur les souffrances des gens et l'impulsion d'essayer de les aider. D'abord explorer, et ensuite essayer de les aider en faisant changer les lois. Et il a en partie réussi d'ailleurs. Mais c'était quand même un voyage, on pourrait dire, dans une certaine mesure très masochiste, parce qu'il était déjà très malade, et le voyage a été absolument exténuant. On ne peut pas imaginer tout ce qu'il a vécu pendant ce voyage. Et l'enquête, il a interrogé tous les bagnards, tous, sans exception. Ça a dû être absolument épuisant. Mais je crois qu'il avait besoin de faire ça. Il a fait ça justement après la mort de Nicolas, comme une sorte de, s'il y avait une culpabilité, un besoin de réparation.
Plus que de voyage, concernant Sakhaline, Annie Anargyros, vous parlez d'errance. C'est un mot très fort, errance. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence entre un voyage et une errance pour vous, concernant Tchekhov ?
Alors, concernant Tchekhov, c'est très, assez clair. Ce que j'appelle l'errance, c'est que les années passant et son angoisse s'accentuant sûrement, il reste dans ses maisons, mais en même temps, il a toujours envie de partir. Il fait des voyages. D'ailleurs, il en a même honte. À un moment donné, il écrit à sa sœur « Ne dis à personne que je suis encore parti ». Voilà. Mais c'est un besoin de fuir son angoisse, je pense.
Ce voyage à Sakhaline, un photographe l'a réalisé. C'est Jean-Hugues Bérou. Il a pris le Transsibérien pour se rendre en Sibérie. On l'écoute.
Enfin, un autre élément qui n'a pas beaucoup bougé aussi, c'est le trac, ce chemin plusieurs fois centenaire que l'on suit de temps en temps, que la ligne du Transsibérien suit. C'est ce trac qu'a emprunté Tchekhov et dont il parle beaucoup au aussi bien dans ses lettres à sa sœur qu'à son ami Souvorine. Tchekhov a utilisé plusieurs moyens pour se rendre à Sakhaline. Bon, d'abord la navigation par les fleuves, par la Volga, par le fleuve Amour ensuite. Aussi quelques tronçons de train qui existaient entre Tioumen et Ekaterinbourg, par exemple. Mais il a surtout suivi le Trak, qui était un chemin qui a très, très mauvaise réputation, qui était dans un état pitoyable, puisqu'il y avait peu de gens qui pouvaient l'entretenir sur sa longueur immense. Et donc il était le plus souvent défoncé du fait des écarts de température énormes entre cet été sibérien qui est très chaud et cet hiver où les températures peuvent atteindre les moins 50 degrés. Ce qui fait que les petites roues deviennent vite des ornières et des fossés.
Moi, ça me fait penser ce qu'on entend à l'instant, Annie Anargyros, ce petit reportage là de Jean-Hugues Bérou dans le Transsibérien, et ce qu'il dit du Trak, à cette phrase que vous avez sur Tchekhov à un moment où vous parlez de rédemption par le sacrifice de soi. On a l'impression que cet homme se faisait mal à lui-même.
Oui, c'est vrai.
Mais est-ce que l'écriture, est-ce qu'écrire était pour lui une douleur ?
Une douleur nécessaire, je dirais. Il en parle sous les traits de Trigorine dans La Mouette, qui dit qu'il ne peut pas s'empêcher d'écrire. Il voudrait bien arrêter, il voudrait bien se reposer. Mais non, il faut toujours écrire. Et en même temps, je pense que c'était pour lui une autothérapie. Parce que, à travers l'écriture, il entrait peut-être en contact avec son inconscient. Il pouvait peut-être élaborer et subjectiver, je dirais, ses souffrances inconscientes.
Lorsque vous rapportez les propos de Léon Chestov dans votre livre, Annie Anargyros, vous dites que Chestov disait de Tchekhov, il est le chantre de la désespérance, il tuait les espoirs humains, il n'a fait que cela, c'était l'essence de son art. C'est très dur ce que dit Chestov. Pensez-vous que Tchekhov vivait la chose de la même manière que Chestov l'a décrit ?
Je pense qu'il faut nuancer. Il n'y a pas tort, Chestov. Mais il ne faut pas oublier l'humour absolument extraordinaire, parfois sarcastique, parfois simplement drôle. Mais la violence, la tristesse, l'ennui, les pulsions inavouables qu'il révèle chez ses personnages sont toujours modérées par l'humour. Tout d'un coup, c'est drôle. Et il prétendait que la Cerisée, c'était une comédie.
Donc il y avait quand même chez lui des notes d'espoir,
voilà.
Des notes de joie,
d'espoir,
et un peu
de
bonheur.
Pas, de joie, oui. Parce qu'on pouvait toujours s'en tirer, se tirer du désespoir par l'humour.
Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi.
Grand merci à vous, Annie Anargyros, d'être passée nous voir dans Une saison au théâtre. Je rappelle le titre de votre livre, Une psychanalyste lit Tchekhov, préface de Gilbert Diatkine. Ce livre est paru aux éditions L'Harmattan et votre précédent livre consacré à Tolstoï s'intitule Tolstoï, la déchirure. Je rappelle aussi deux créations autour de Tchekhov que vous pouvez voir actuellement au théâtre. Mélancolie, mise en scène de Julie Deliquet, d'après Les Trois Sœurs et Ivanov. C'est au théâtre de la Bastille du 20 novembre au 12 janvier avec des relâches du 23 décembre au 7 janvier. C'est dans le cadre du Festival d'automne. Et puis aussi, surtout, sans doute, Les Trois Sœurs d'après Tchekhov qui se joue à l'Odéon dans la mise en scène du surdoué Simon Stone jusqu'au 22 décembre.
Partager mes jeux, mais tout doit finir pourtant dans la vie.
Vous pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture.
Demandez pourquoi pleurer, découvrir le monde.
Inès Duperron, Pierrick Monsigny, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent, bientôt 16h. Restez à l'écoute, tout de suite Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet.
Une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Quand j'ai quitté ce coin de mon enfance, je savais déjà que j'y laissais mon cœur. Tous mes amis enviaient ma chance, mais moi je pense encore à leur bonheur. L'insouciance qui les faisait rire, et il me semble que Chantant